Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 188, ici Richard Delhomme. Vous avez été nombreux à suivre la première édition de Bright Midnight en Norvège début juillet. Eh bien, aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter un débrief avec les principaux protagonistes, à savoir Sofiane Sehili, Clément Mahé et Christophe Dijkmans, dont la prononciation me posera... Voilà, merci de me corriger. Mais je te l'avais déjà dit, j'ai mis 6 mois à prononcer correctement Vandergeinst, donc laisse-moi encore un tout petit peu de temps. Partager un repas thaïlandais en Norvège ne suffit pas. Je ferai bientôt un autre débrief avec Laurie, Julie et Laura, encore faut-il que je les prévienne. Messieurs, nul besoin de vous présenter, sauf peut-être Clément qui pourrait être le moins connu de tous, mais dont la présence sur le départ d'une épreuve indique que ça va rouler vite. Pour commencer... Messieurs, quelle pourrait être la trajectoire de cette épreuve, dont c'était la première édition, une étoile éphémère ou au contraire sur le point de devenir une épreuve incontournable ?
Waouh, vaste question.
Je vous ai habitué à des débuts beaucoup moins sérieux que ça, j'y progresse, j'y travaille petit à petit.
Je pense que ça a le potentiel pour devenir incontournable, je sais pas, mais tout du moins populaire. Je pense que ça a vraiment le côté assez roulant, mine de rien, même si attention, faut pas croire que c'est non plus tout le temps roulant, il y a quand même des passages qui tabassent un peu, surtout sur la fin. Mais le côté assez roulant, le côté assez rassurant des pays scandinaves où t'es quand même bien en sécurité, c'est bien organisé et tout. Et puis le côté, il fait pas nuit ou très très peu nuit. C'est des choses qui sont intéressantes, qui vont attirer les gens. Et puis après, faut aussi avouer que Justin fait un super boulot avec leur gars. Donc, à mon avis, s'il veut continuer avec cette course, il aura toujours du monde.
Et je pense que ça va vraiment dépendre de ça, en fait. Si Justin est motivé à continuer, parce que pour lui, ça prend pas mal de temps et qu'il est quand même pas mal sur les courses. Et j'ai l'impression que l'inconnu, pour l'instant, c'est ça. Il sait qu'il est un chouette bébé avec du monde et pas mal de gens intéressés, mais faut voir s'il arrive à gérer un peu tout ça avec le temps que ça demande.
Clément, une opinion ?
Ouais, je pense... Du fait que ça soit, comment dire, qui est le jour un peu tout le temps, ça va forcément attirer du monde. Maintenant, après, comme ils ont dit, hein, c'est clairement, ça dépend de Justina s'il a la volonté. Mais entre le parcours, la variété de paysages, le jour tout le temps, je pense que ça peut que plaire. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait venir, c'est quand j'ai vu l'idée de pouvoir voir le jour tout le temps. Je pense qu'humainement, c'est intéressant à vivre. Et donc, j'y crois, quoi.
Et il y a encore un autre point.
Quelles étaient vos attentes ? Oui ?
Ouais, je disais, il y a encore un autre point, c'est que des épreuves off-road, il y en a quand même beaucoup, mais des vraies épreuves pure gravel, il y en a quand même pas tellement. On voit des gars en gravel sous la
tête,
mais c'est pas des épreuves gravel, alors qu'ici, c'est une des seules où on peut venir avec des pneus de 40 et vraiment faire du gravel, même s'il y a un peu de défoncé à certains moments, mais je vois pas beaucoup d'autres épreuves comme ça, à part Badlands peut-être, ou...
Ouais, non, t'as vraiment raison là-dessus, Chris. C'est vrai que là, pour le coup, tu vois, moi, généralement, quand je fais une ultra en gravel, quand je reviens, soit je me dis, ah bah, j'étais content d'avoir des 48, ou alors je me dis, ah bah, peut-être si j'étais venu en VTT, je serais allé plus vite, quoi. Là, c'est vraiment une épreuve qui est faite pour les vélos de gravel. Et c'est vrai que finalement, tu vois, même en revenant, je me suis pas dit, ah, peut-être des pneus plus gros ou une suspension ou quoi. Là, je me suis dit, ouais, on avait les bons vélos, on avait les bons pneumatiques. C'est une vraie ultra gravel.
Rien à ajouter là-dessus, Clément? Tout va bien?
Non, c'est comme ils ont dit, c'était vraiment gravel. Voilà, comme habituellement, on voit, ça part souvent en VTT. Là, pour les gens qui veulent faire du vrai gravel, voir le jour tout le temps, découvrir des beaux paysages, bah, ça peut que prendre, quoi.
Alors après, il
Sans
faut quand même
parler
prévenir les gens
du
qui
météo.
seraient intéressés par l'épreuve. C'est du super gravel, hyper lisse, nickel sur le premier tiers. Après, le deuxième tiers, c'est quasiment que de l'asphalte. Donc si les gens, après, c'est moi je me plains pas hein, parce que je sais que c'est très compliqué de faire des parcours pure gravel. Donc je suis tout à fait prêt à accepter qu'il y ait quand même pas mal d'asphalte sur une course gravel. Et après, le dernier tiers, ça retourne sur le gravel avec voilà quelques parties qui vont tabasser un peu.
Et sur ce point-là, je sais que Justinas a dit qu'il comptait améliorer la fin, donc ça les a changés aussi.
Et il a parlé des hike bike aussi de la première journée qui nous ont tous bien fait rire.
Bah ça, je pense qu'il va les laisser, hein. Je vois
C'était
pas de
cool.
raison de les
C'était
enlever,
vraiment
ouais.
cool.
Ouais. Bon,
Ouais.
après, ça dépend du niveau des gens, ça dépend de leur expérience. C'est vrai que pour Chris et moi qui avons fait la Silk Road 2021 avec un hike bike d'une dizaine d'heures, marcher pendant une demi-heure, ça ne me fait pas trop peur. Et après, pour des
Au
gens
contraire.
qui ont jamais fait d'ultra ou de hike bike, ce sera la chose la plus difficile qu'ils auront jamais fait sur un vélo. Donc
Très bien. Quelles étaient vos attentes en arrivant en Norvège? Clément, toi, c'était un petit peu le retour. Sofiane, c'était la vengeance. Christophe, c'était quoi?
batailler avec les autres et voir et le 24 heures, ça me parlait clairement. Donc, c'est
Ouais.
toujours la question de faire la course, c'est que tu sais que tu rates une partie des choses avec la nuit, ou en tout cas, tu les vois différemment. Et que là, ben, on savait qu'on allait en prendre plein la vue, mais genre tout le temps, même la nuit.
Et toi, Clément, alors c'était vraiment le retour, on peut
Ouais.
le dire quand même.
Ouais, exactement, le retour. Moi, j'avais pas fait d'ultra depuis 2 ans. Donc, j'y allais pour, sans trop penser à la course. Moi, clairement, je voulais faire 24 heures de vélo, et voir comment je me sentais. Après, voir si j'étais dans le coup pour jouer ou pas. Et voilà, c'était voir le panorama, découvrir la Norvège. Et après, bah, j'ai pensé à la course après 24 heures, mais c'était plus retour, me remettre dans le bain et faire mon premier vraiment ultra off-road aussi, parce que j'avais plus d'expérience sur route. J'avais juste fait un 400 km off-road, donc je voulais voir comment ça se passait. Et j'ai trouvé ça cool, beaucoup moins routinier, ennuyant que d'être sur de la route, en fait. Donc ça a été une vraie découverte et j'ai vraiment apprécié ça.
Tu
Résultat, il
étais
nous a
bien
cassé
prêt
les
parce que
pattes. Parce que le 400 qu'il mentionne, c'était rien de moins que le tour du lac Léman avec, je crois, 9 000 de dénive, un truc comme ça que tu avais fait avec
Ouais, ça,
Philippe
c'est
Béchet.
avec Lausanne Gravel. On avait organisé
Mais oui.
à un mois et demi avant le tour du lac Léman Gravel. J'avais tracé la trace dans l'idée de ouais, cette boucle-là. Je le vois, le lac Léman, tout le temps, donc je voulais créer ça. On a fait ça un peu entre potes. On était une trentaine au départ et c'était chouette. Donc ça, j'avais fait ça. Mais il y a 2 ans, j'avais fait la traversée des Vosges en gravel et c'était mon seul ultra. Donc, voilà, c'était mes débuts un peu en off-road et maintenant à voir qu'est-ce que je vais faire. Mais ça m'a bien branché, quoi.
Ça t'a bien mis en condition. Et toi, Sofiane, alors, la déception de tes problèmes de chien?
Ouais, bah comme tu l'as dit, moi c'était la revanche, hein. C'était la revanche sur un début d'année qui m'a déçu. Pour les gens qui n'ont pas suivi, j'étais présent au départ de la Hellenic Mountain Race, qui devait être le début de ma saison et sur laquelle je fondais beaucoup d'espoir. Et en m'y rendant, j'ai été mordu par un chien assez gravement. Ça m'a mis sur le carreau pendant à peu près 3 semaines où j'ai pas pu rouler du tout. Et après, j'ai enchaîné avec la Highland Trail 550 où Chris était présent d'ailleurs, où il fait une super 3e place. Je suis arrivé là-bas, j'avais pas la condition physique, j'avais pas roulé pendant quasiment 3 semaines. Et puis en ultra, en plus, quand t'as pas roulé, t'as pas la condition physique, mais t'as pas la confiance non plus. Donc t'es là, tu prends le départ. Moi, des gars avec lesquels normalement je sais que je peux me bagarrer, comme Manu qui fait 2, avec lequel j'ai déjà roulé et je sais que je suis au moins aussi fort que lui, j'arrivais pas à le suivre et c'était compliqué après de se mettre dans une course quand tu sais que tu peux pas le donner le meilleur de toi-même. Et j'étais un peu j'ai adoré cette épreuve parce que c'est magnifique là, l'Écosse. Mais je l'ai adoré en tant que voyage, j'ai envie de dire. Mais après, sportivement, en tant que compétiteur, j'étais dans un espèce de d'entre-deux qui était assez frustrant et qui m'a pas du tout apporté ce que je recherche quand je pars faire une compète. Et c'est vrai que j'avais besoin de prendre une revanche sur ce début d'année et d'arriver en bonne condition sur un début d'épreuve et puis de faire du mieux que je pouvais et de me battre pendant l'intégralité de la course pour faire une belle place ou une victoire, quoi.
Est-ce que, à l'instant, tu viens de mentionner qu'il est difficile de prendre le départ d'une course avec la confiance un petit peu entamée ou en tout cas pas complètement à bloc. Là, comment tu as réussi à te mobiliser justement pour être finalement pour maîtriser cette épreuve de bout en bout?
J'avais après l'Écosse, j'ai pas trop traîné. J'ai récupéré relativement rapidement. Je suis remonté sur le vélo très vite. Puis j'ai fait un bon gros bloc entre les Alpes et les Pyrénées au mois de juin. Et après, j'ai l'impression que je me suis bien préparé. Je suis arrivé à Tolga à vélo, j'avais fait 400 en borne. Donc quand je suis arrivé sur la ligne de départ en Norvège, je me disais voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait les bornes, j'ai fait l'intensité. Je me suis dit que avoir eu une coupure de 3 semaines après la Grèce, finalement c'était du repos, ça pouvait m'être que bénéfique et que j'avais capitalisé là-dessus. Et je me disais voilà, physiquement c'est là, il n'y a pas de raison pour que j'y arrive pas. Et après on est parti et on avait un Suédois qui nous a testé sur toutes les côtes. Dès qu'il y avait une montée sur toutes les côtes, il attaquait bille en tête sur les 150 premiers kilomètres jusqu'au Burger King. Après on l'a plus vu, arriver sur le départ en se disant voilà que le taf a été fait, que la condition normalement elle est là, et après voilà pouvoir bagarrer avec des gars comme Clément, comme Chris et comme notre ami suédois qui était affûté, il était très très affûté le Gus, et il envoyait sacrément dans les côtes. J'ai voulu le tester à un moment un petit peu une fois, il avait du répondant quand même. Il avait du répondant sur 200 bornes, mais il en avait.
Donc, si je comprends bien, la première journée, le truc qu'il ne fallait pas louper, c'était le Burger King.
Je t'avoue que là, t'es pas avec l'équipe qui s'est arrêtée au Burger King. Hein.
Faut que tu invites
Adam Palin, voilà, dans ton podcast. Lui, il pourra te parler de ses whoppers qu'il a mis dans ses poches cargo pour la suite de la course.
Mais je crois que c'est lui que j'ai en photo là. J'ai partagé un truc tout à l'heure avec les photos de Nils. Et on voit un mec se goinfrer, emmener une tonne de bouffe avec lui. C'est peut-être lui. Mais alors justement, à ce moment-là, vous vous êtes arrêté. Vous avez fait plutôt la station-service. Vous vous êtes arrêté. Vous avez continué. Vous êtes juste allé à la station-service à côté. Non, mais je sais pas. Je demande justement.
Ils sont pas arrêtés parce que moi, on était à 3 justement à ce moment-là, plus ou moins. Et moi, j'ai vu le supermarché, c'était un kiwi là-bas. Et je me suis arrêté et je me suis dit, eux continuent. Et voilà, on s'est tous retrouvés plus tard. Mais à ce moment-là, ouais, personne ne s'est arrêté. tout cas pas de ceux-là.
Bah, si... Non, il y en a plusieurs qui sont arrêtés. En fait, on n'est que deux à pas se rater.
Ouais, on n'est que deux, ouais.
On s'est retrouvés à deux, mais sinon, ouais, tout le monde s'est arrêté. Bon, moi, j'ai pas ressenti le besoin de m'arrêter. J'avais encore de la bouffe, de l'eau. Tu te baisses et t'en trouves. Donc, ouais, pas le besoin, pas l'envie de m'arrêter.
Clément, pas de Burger King pour toi ?
Non. J'avais en nourriture, j'avais assez sur moi. Et l'eau, bah, je buvais dans les rivières à droite, à gauche. Donc, j'avais pas besoin de m'arrêter. Donc, avec Sofiane, on s'est retrouvés. Et après, on prenait un bout de gravel. On faisait, 10-15 bornes sur route. On prenait un bout de gravel. Et là, j'ai trouvé une rivière. Et donc, pas besoin de s'arrêter à ce moment-là. Ouais.
Votre stratégie, bon, à part les attentes, vous connaissiez sur le départ, sur la ligne de départ. Quelle était, en vous jaugeant, en voyant un petit peu ce que vous aviez fait précédemment, quelle était la stratégie ? Christophe, toi, tu es arrivé quelques semaines après la Highland Trail. Quelle pouvait être ta stratégie sur un truc finalement extrêmement roulant où tu pouvais lâcher ta puissance ?
Bah, je savais pas trop. J'avais pas beaucoup de benchmark en fait à part Sofiane au niveau opposant on va dire. Et je sais que je peux rouler vite. Je sais que globalement je meurs quand même souvent au niveau du sommeil. Et voilà, il n'y avait pas trop d'idées, juste rouler et voir comment ça vient, et c'est de nouveau comme ça que c'est passé. Du coup, j'ai quand même pas mal de choses à améliorer toujours au niveau de gestion de course, mais voilà, après, il y avait un point qui était un peu déterminant, c'était le ferry, et finalement, on a tous roulé comme des cons le premier jour pour pas grand-chose, donc la course, elle a vraiment recommencé au niveau de... au kilomètre 460, entre les gens, 480, où on repart finalement à 6, donc tout ce qui s'est fait avant, ça n'a pas servi à grand-chose. Et la question, c'était les attentes avant que je parte dans autre chose.
Quand tu as vu qui était au départ, bon, on le savait un petit peu déjà, bien entendu, on en avait même parlé la veille. Mais quelle était ta stratégie un petit peu ? Tu t'étais dit, j'attends le ferry, je leur fais le coup du Burger King.
Non, c'était vraiment...
J'attends les hike bike. c'était quoi, toi ?
Juste vraiment rouler, voir comment ça vient. Et le ferry, en fait, finalement, c'est même venu plus tard, une fois qu'on a été au briefing, que Justinas a parlé de ce point-là, parce que j'avais pas vraiment tilté qu'il y avait une histoire de ferry. Et voilà, rouler et voir comment ça vient et voir comment je tiens par rapport à la fatigue et avancer, point. Et a priori, pas trop se calquer sur les autres, normalement.
Sofiane, j'ai cru entendre que tu n'avais pas hyper préparé le parcours et que c'est juste au départ que tu as appris qu'il y avait un ferry. C'est juste ?
C'est juste ? Ouais, honnêtement, je suis arrivé un peu à l'arrache. Je suis arrivé en Norvège un peu les mains dans les poches, comme ça m'arrive parfois. J'ai appris, en effet, qu'il y avait un ferry au briefing. J'ai pas pensé que ce serait un problème. J'ai regardé, j'ai fait 460 km, 6 heures du matin. Je me suis dit, bon, normalement, on est bon, tu vois. J'avais pas imaginé qu'on serait aussi rapide. Et en fait, on a vraiment, vraiment tracé, quoi. Et c'est vrai que on est allé beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé, et on est arrivé au ferry qui a quasiment déterminé le départ d'une nouvelle course. Moi, ma stratégie, c'était évidemment de pas dormir, comme je l'ai déjà fait. Tu as une livraison, Richard ?
Ouais, j'arrive.
Vas-y. je vais en profiter du coup pour manger un petit bout. Moi,
bon, ben voilà. Bon, c'est quand que je viens à Lausanne, du coup.
Quand tu veux, t'es attendu. Toute l'équipe t'attend, là.
Ça va. Ça va. On verra après septembre. Il y a peut-être moyen de caser ça.
Ouais, à l'automne, il y a de quoi faire ici. Il fait encore beau et... Yep.
Et il fera moche ici.
Quand tu veux. T'es le bienvenu.
Ouais. On fait ça.
Ouais, il est bon.
C'était bien ton retour?
Ouais, bah. C'était. Voilà, c'est retour à la réalité. Et il fait bien dégueulasse en Belgique pour l'instant. Donc, c'est pas. Après, il n'y a pas une envie de vélo de fou pour l'instant.
Ouais, à Paris aussi. Hein.
Ouais, j'imagine. Ouais. Bah, par contre, à Lausanne, il va faire bon, non?
Ça va. Ouais, on a chaud. On a chaud, ouais. Mais aujourd'hui, ça va encore. On a pris un peu de pluie, mais on n'est pas à plaindre.
Yeah. Voilà, toutes mes excuses.
Les miennes aussi, parce que je suis en train de manger du coup. Ok, on reprend.
Donc vous étiez en train d'échanger sur la météo sur le bord du lac,
ouais.
C'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais, moi, je suis un petit peu dégoûté quand même, parce que j'ai passé le mois de juin à griller au soleil pour se prendre 3 jours de pluie en Norvège. Et puis là, finalement, il n'y a plus un poil de soleil, il fait froid et tous mes efforts de bronzage exotique vont être réduits à néant. Mais bon.
Alors que moi, mon bronzage est toujours là.
Ah ouais, affûté comme une teigne. Hein. Ouais. Manger que des endives, ça paye.
Ok. J'en étais
que
où?
Que disais-tu,
stratégie, stratégie. Ouais, la stratégie, c'était évidemment de ne pas dormir. Pour moi, c'était tout le principe d'une course où il n'allait pas faire nuit. Je tablais sur une course qui mettrait environ 60 heures parce que je me suis dit 1000 km gravel, enfin, gravel ça va quand même beaucoup moins vite que la route, mais je me disais ouais, 60 heures sans dormir, je l'ai déjà fait même avec des longues nuits, donc avec pas de nuit normalement ça devrait pas être trop un problème. Et puis après sur le départ de la course, ouais, j'avoue que j'ai été vraiment surpris par la vitesse à laquelle ça allait, et j'ai été ouais surpris aussi par le fait qu'on arrive comme à se retrouver à 5 sur le ferry, 5 personnes qui arrivent à faire une moyenne de 23 km/h sur les 20 premières heures de la course. C'était quand même pas évident. Ouais, après la stratégie, je l'ai faite sur le coup, quoi. Et quand on est sorti du ferry et qu'on était 5, j'ai vu que ça se regardait quand même pas mal au début, que ça savait pas trop quoi faire, et moi je savais qu'il y avait le gros col qui arrivait avec 20 km à 7%. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'on va faire les crémages, et j'ai attaqué en bas du col, et Clément avait les jambes pour suivre, et j'ai vu quand même qu'on avait fait un joli trou, parce que en fait on montait et puis après on redescendait sur 4 km par la même route, et on a croisé Rasmus qui était 3. On l'a croisé, on avait au moins, je pense, 40 minutes d'avance à ce moment-là. Donc, je me suis dit, à la pédale, normalement, c'est Clément et moi qui sommes les plus forts. Donc, ça devrait se jouer entre nous deux, sauf avarie mécanique ou grosse défaillance. Mais et après, la stratégie, c'était... Il n'y en avait pas, après. Il n'y avait pas de stratégie. Hein. C'était juste... rouler et puis voir qui allait fatiguer et ralentir et s'arrêter, et après tu fais ce que tu peux faire, tu fais ce que ton corps te laisse faire, et mon corps m'a laissé rouler correctement, à peu près correctement jusqu'à la fin, et tant mieux.
Et toi alors, Clément, tu as répondu promptement à cette attaque en bas du col du lac d'altitude, dont le nom m'échappe, c'est un nom norvégien très compliqué. Voilà, exactement. Toi, tu as répondu aisément, ou tu t'es un petit peu mis dans le dur? Au contraire, tu as pu répondre. Et est-ce que tu aurais pu, à ton tour, qu'est-ce qui t'a manqué si tu ne l'as pas fait? Combien il t'a manqué à peu près pour espérer lâcher Sofiane? As-tu même essayé?
Bah, en fait, on arrive à deux, il a fait le pied, et ça montait fort. Ça montait très fort, et dans ma tête, je me disais, on est à mi-course, il reste 500 kills, et on est en train de se mettre des sacoches, et au fur et à mesure, on montait à côté, j'ai accéléré un peu, il répondait, il en remettait, et on s'est tiré un peu la bourre comme ça, toute la montée. Et bah moi, clairement, vu que j'ai vu que j'étais dans le coup, j'ai dit, bah là, comme mon plan, c'était 24 heures, je roule, après, je pense à rien, je roule, je fais du vélo, je suis heureux, je profite de l'instant présent. Là, on était passé les 24 heures, donc je dis, bah maintenant, je vais prendre des risques. Et après, clairement, on était les deux. Et moi, je me suis dit, la seule solution, voilà, Sofiane, c'est une légende, moi, je suis un débutant. Je dis, la seule solution, c'est de prendre l'avance et le faire craquer, comme je sais qu'il dort pas. Et je me suis dit, bah, je vais jouer, quoi. Donc, j'ai accéléré derrière dans le pont, dans l'après-midi, là, pour essayer de prendre plus de 20 minutes d'avance pour pouvoir dormir un peu, moi, parce que je savais que j'allais sûrement, vraisemblablement avoir besoin. Alors, quand j'ai vu, il y avait un checkpoint qui n'existait pas, mais on pouvait voir sur le téléphone les chronos, et j'avais vu que j'avais 25 minutes d'avance. Donc là, je me suis dit, bah, je me suis arrêté dormir un peu, dans l'idée de pouvoir me reposer et que Sofiane allait revenir. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'on est reparti ensemble. Donc là, mentalement, concrètement, j'ai dit, bah, si après j'ai plus besoin de dormir, on va pouvoir peut-être rivaliser. Mais bon, voilà, la deuxième nuit, j'ai plié. J'hallucinais dans les descentes où mes trajectoires ça devenait dangereux. Et j'ai dit, il faut que je dorme. Et donc, bah, j'ai laissé partir Sofiane à ce moment-là, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'était assez fou ce qu'on faisait à 500 bornes de l'arrivée où. On n'était plus dans la gestion, mais plus à ouvrir quand même. Et je pensais pas pouvoir réussir à faire ça, mais c'était chouette parce que Sofiane et moi, on s'est tiré la bourre un peu droit dans les yeux. Il n'y avait pas de coup caché. Et c'était, ben voilà, on était face à face et on a ouvert les vannes, quoi.
Et toi, Christophe?
Moi, j'étais déjà plus là, hein. Quand on en revient à la gestion de course, donc on a fait la première ascension ensemble, tous ensemble. On est arrivé dans une belle petite ville où j'avais parlé à Justina Soferi et il m'avait dit qu'il y avait une pompe à essence là. Et j'ai un peu misé là-dessus. Je suis arrivé, il n'y avait rien du tout. J'ai pas été très malin au niveau du ferry, j'ai pas rechargé les bidons, donc j'étais à sec. Donc il y avait un supermarché qui était fermé. Finalement j'ai rempli les toilettes dans une les bidons dans une toilette. Et il y avait un resto café à un endroit. Et vu que j'étais plus vraiment dans les roues, je me suis dit ok, je vais me prendre un café et puis je décolle. Et là voilà, j'étais solo à ce moment-là et j'ai fait c'est à partir de là que j'ai fait ma course solo de mon côté. Et j'ai revu Rasmus dans la descente, donc dans l'aller-retour justement. Et j'ai revu, je pense avoir revu Philippe aussi à un moment. Et voilà, donc après c'était cours solo jusqu'à mon problème, je veux dire, de réveil de nouveau. Je sais pas les kilomètres, mais kilomètres 700 plus ou moins dans ces eaux-là. Je trouvais une chouette petite cabane de chantier, une roulotte. Je me suis mis dedans et une heure s'est transformée en 5-6 heures de sommeil. Donc, toujours le rush du réveil. On voit qu'il y a deux cocos qui sont passés devant. Voilà, c'est réveil, target et on va les rechercher un par un. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai repris ma place, mais c'est passé très vite du ferry, du coup, être tous ensemble à la tête, à tenir chasseur en deux secondes avec cette connerie de resupply que j'ai pas fait et puis le réveil qui m'a mis dans un rôle de chasseur encore plus. Après j'aime bien chasser, je trouve que mentalement c'est beaucoup plus facile. Je sais pas en fait, je suis toujours dans un rôle de chasseur, mais mentalement je trouve ça hyper motivant de voir que t'as 20 km d'écart et que puis c'est 10 et puis c'est 5 et puis tu reprends le gars et puis tu le vois plus. Donc mentalement c'est assez facile et c'est chouette comme jeu. Après, c'est pas ça qui t'amène à la première place. Mais voilà.
Tu parles de la station-service dans la première montée après le ferry ?
Après le ferry, il n'y avait rien du tout.
Ouais. Puis il était censé y avoir une station-service, mais en fait, c'était, euh, Il y avait une pompe toute pourrie et c'était tout. Et moi aussi, je comptais là-dessus.
Oh, du col, c'était hors de question de s'arrêter. On était tous ensemble. Il y avait une chouette descente, donc on l'a tous fait ensemble. Et ouais, a priori, en fait, j'aurais pas dû m'arrêter. Point. Non, j'avais besoin d'eau quand même. Donc,
voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, Chris, parce que ça ramène au fait que sur des courses qui sont très longues pour du vélo traditionnel, mais relativement courtes pour de l'ultra, qui sont des 1000, la marge d'erreur, elle est hyper fine, en fait. C'est-à-dire que tu fais une erreur comme oublier de remplir tes bidons avant le ferry, quand t'as tout le temps de le faire, et ça peut avoir d'énormes conséquences. C'est-à-dire que moi j'en ai fait des erreurs, mais j'en ai fait au début de course, des erreurs de ravitaillement, de pas m'hydrater au bon moment, pas assez manger et tout. Et finalement, tout ça, c'était lissé, le ferry après, que t'arrives une heure et demie, une heure ou 45 minutes avant, de toute façon, ça changeait rien, quoi. Donc, toutes les erreurs que tu pouvais faire sur les 500 premiers kilomètres, si elles te coûtaient 10 minutes, 20 minutes, c'était pas dramatique. Parce que voilà, c'était lissé. Mais les erreurs que tu faisais après, elles pouvaient coûter vraiment cher. Et c'est pour moi vachement symptomatique du fait que le niveau de l'ultra monte énormément. Il monte de manière constante chaque année, et que on peut plus aujourd'hui faire ce genre d'erreur, ou alors après on les paye cher, et pour les rattraper, il faut vraiment être très très fort. Et si je compare avec le dernier sprint entre guillemets que j'avais fait, qui était la Transpyrénée en 2021, la Transpyrénée, honnêtement, j'avais roulé beaucoup moins vite et le niveau était pas du tout le même, quoi. J'étais à la mi-course, j'étais deuxième avec pas mal d'avance sur Omar, alors que là, en allant beaucoup plus vite à la mi-course, on était 5. Donc la densité, je trouve qu'elle se renforce énormément, et en se renforçant énormément, ça fait que la marge d'erreur est vraiment de plus en plus fine.
Et que le mot sprint, le mot sprint porte vraiment bien son nom. Ça fait toujours sourire les gens qui commencent l'ultra en disant que 1000 c'est un sprint, mais ouais, il n'y a pas de marge d'erreur du tout. Et en fait, essayer de gagner du temps sur des ravitos, même 5 minutes sur 10 ravitos, ça fera la différence. Les écarts à l'arrivée, ils ne sont pas énormes non plus. Donc, une place ne joue à pas grand-chose sur une course comme ça.
Il y a moins d'une heure, entre Rasmus et moi à l'arrivée. Hein.
Et Rasmus, on l'a revu débarquer de nulle part parce qu'il a pris un énorme coup de chaud, je pense, le premier jour. Et on était à deux avec Sofiane, et puis on voit un gars qui arrive de derrière, un gros moteur allemand là qui arrive et ça poussait des watts.
Un avion.
C'était vraiment costaud. Ouais, vraiment.
Sur le plat, un avion.
Et on peut vraiment
justement
dire la chose
tous les trois. Vous l'avez mentionné un petit peu à votre manière. Tout à l'heure, Christophe, tu l'as dit. Sofiane, tu viens de le dire un petit peu. Vous avez fait quoi comme erreur qui font soit un petit peu boule de neige pour Christophe. Sofiane, toi, tu as réussi à lisser à la fois grâce à l'expérience et un petit peu à la providence du ferry. Vous avez fait quoi comme erreur tous les trois? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Tout à l'heure, Christophe, tu disais qu'il y a encore plein de trucs à améliorer. Dans ton cas, il y a quoi à améliorer? À part tes problèmes de réveil.
Le réveil, c'est un gros truc déjà, mais le sommeil, de manière générale, c'est un truc que je dois améliorer en course. Je pense que je dois aller un peu plus loin. Je pense que je ne vais pas assez loin. Et en même temps, j'aime pas du tout rouler en mode zombie. J'ai déjà fait l'expérience sur plusieurs courses et avoir l'impression de pousser, même si tu continues à avancer, mais tu pousses 150 watts et t'avances plus, ça m'intéresse pas trop parce que le plaisir est quand même bien altéré. Dans ma vie de tous les jours, je pense que la pré-course, ce serait quand même bien que je fasse un peu attention à mon sommeil avant les courses. C'est pas du tout le cas actuellement et je sente complètement les courses et ma vie de tous les jours. Ma vie de tous les jours, je fais pas de compromis pour le vélo. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sommeil. Alors pour les autres erreurs, ouais, ravito, c'est question de parfois vouloir gagner du temps à pas en faire un, et, ou alors à vouloir autre chose. Je pense qu'il faut prendre tout comme ça vient, et si tu vois, ouais, s'il y a une bonne occasion de ravito, tu réfléchis pas trop, tu la fais, et si elle est efficace, tu la prends en point, et basta. Et voilà pour les grosses erreurs, je pense. Point matos et tout ça, je pense que c'est pas. De toute façon, c'est des erreurs qui peuvent être faites avant, mais pas en course. Bah donc oui, la base, c'est ravito et dodo et alimentation. Bah de nouveau, est-ce que c'est des erreurs si ton corps vraiment te dit merde, j'ai plus envie de sucre. Ouais, il y a moyen de trouver des meilleures façons de manger, mais de nouveau, pareil, c'est une course, ça se passe bien, et une autre, après 200 kilos, ton corps, il veut plus trop de sucre. Donc voilà.
Clément, toi, t'as fait quoi comme petites erreurs qui ont fait boule de neige?
Peut-être
Ou pas d'ailleurs, il n'y a pas d'oubli.
un départ un poil trop rapide où je suis arrivé avec pas mal d'avance au ferry. Après, concrètement, l'avantage, c'est que j'ai bien pensé qu'on allait être bloqué au ferry. Et la fameuse montée de Trollstigen, j'ai pu vraiment lever le pied. Et peut-être que c'est ça qui m'a aidé à être un peu plus frais pour suivre Sofiane quand il a monté fort. Et après, je pense que là où la grosse erreur, c'est quand j'ai commencé à être fatigué la nuit, j'ai commencé à m'arrêter 5 minutes, repartir, et j'hallucinais encore, je me suis encore arrêté 5 minutes, encore reparti, encore 5 minutes, et après, au bout d'un moment, j'ai dit, ça sert à rien, et je m'arrête, je sais pas, 20 minutes, et ça ira mieux. Et je pense concrètement, c'est juste d'être assez lucide, à un moment, se dire, arrête-toi vraiment 20 minutes. Oublie les petites siestes de 5 minutes parce que ça sert à rien. C'est juste être un poil plus lucide pour bien dormir et après tu repars plus sérieusement, quoi. Donc ça, je pense, c'est une erreur et voilà, parmi tant d'autres. Après, là, j'ai eu de la chance où l'estomac, la nourriture s'est bien passée. Et après, dans le passé, j'ai fait énormément d'erreurs où, ben voilà, t'aimes bien me le dire, Richard, mais je me suis vomi dessus au Portugal. Donc voilà, là, il y a des fois ça joue, des fois ça joue pas, et là, tout s'est bien passé, quoi.
Bah, vu que je suis pas trop en rade au niveau erreur, je me permets aussi de me moquer un petit peu de temps en temps parce que j'ai largement ma dose d'erreurs qui font bien bien boule de neige. Donc de temps en temps, ouais, une petite blague, ça fait pas de mal. Sofiane, toi, t'as fait quoi comme petites erreurs? Tu peux revenir sur ce concept d'erreurs que tu t'as fait sur les 500 premiers kilomètres, mais qui ont été lissées. Est-ce que tu peux détailler
Ouais,
un petit peu ça? Comment tu les as lissées?
moi souvent je fais c'est les débuts de course sur lesquels je fais des erreurs parce que bah l'expérience sur 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours, 2 semaines, je l'ai. Mais je viens pas j'ai pas un background, un passif de coureur cycliste moi. Donc tous ces départs rapides où tu dois alimenter ton corps quasiment comme si c'était une chaudière, j'ai pas l'habitude de faire ça et j'ai du mal à le faire. Et tu vois par exemple là je suis parti avec une alimentation dont je sais qu'elle fonctionne sur une course longue, mais j'avais pas l'alimentation correcte pour faire un sprint quoi. Si je devais repartir là sur la Bright Midnight en sachant ce que je sais, je me prendrais des gels, je me prendrais des boissons isotoniques dans les bidons, tu vois. J'essaierais vraiment d'optimiser la manière d'alimenter la machine pour un effort intense et court qui a été cet effort des je dirais 6-7 premières heures. Et c'est vrai que moi cet effort-là il m'a quand même je l'ai payé à un moment on s'est retrouvé avec Clément en bas d'un col et lui il venait tout juste de s'arrêter 5 minutes dans une station-service. Moi j'ai zappé ce ravito. Je me suis dit bah écoute, j'ai pas besoin. Et en fait à ce moment-là j'ai commencé vraiment à plonger. J'ai pas réussi à suivre dans le col alors que ça montait pas particulièrement dur, mais je sentais que j'y arrivais pas, que les jambes étaient pas là, elles étaient coupées, j'avais qu'une envie, c'était de m'arrêter. Je me suis dit, là, il y a vraiment une grosse baisse. Il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, ouais, vas-y, bois, mange. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à avoir ces réflexes-là d'alimentation pour des départs, quoi, des départs forts, des départs rapides où t'es tout le temps en prise, t'es tout le temps en train de pousser. Et je pense que moi, j'ai pêché là-dessus au début de la course. Et après, ouais, après le ferry, moi, j'avais rempli mes bidons au ferry, donc ça a été jusqu'au sommet du Dalsniba. Et après, on s'est retrouvé finalement entre le sommet du Dalsniba et le premier ravito. On s'est retrouvé dans une zone où c'est un peu la seul endroit que j'ai vu en Norvège où il n'y avait pas d'eau, quoi. Et donc là, j'étais un peu à court d'eau et j'ai fini par pas réussir à suivre Clément parce que je commençais à avoir vraiment, vraiment trop soif. Et moi, mes erreurs, ouais, c'était vraiment plus, voilà, des erreurs de. S'alimenter correctement, tu vois, je suis parti avec des trucs, je suis parti avec de la bouffe avec laquelle j'ai fait l'intégralité des 1000 kilomètres avec, tu vois, des M&M's et des biscuits que j'avais dans ma sacoche et que j'ai pas eu envie de manger, que j'ai pas mangé. Donc ouais, peut-être pour d'autres sprints, appréhender ça d'une meilleure façon avec notamment un apport en glucides mieux optimisé, un apport aussi en, tu vois, là je m'étais dit je vais en Norvège, bon il va pas faire chaud, donc j'avais pas pris de sel minéraux et ben finalement le premier jour il a fait chaud et comme on a bombardé et ben j'ai pas crampé mais j'étais pas loin de cramper et je sentais que vraiment j'avais fait une erreur en prenant pas de sel minéraux ouais, on a vraiment sué et donc ouais moi je pense que mes erreurs elles étaient là mais mes erreurs elles étaient quand même plus avant le ferry et donc j'ai été un peu sauvé par ça et après ouais ça a redonné le départ ce ferry et ça m'a souri parce que ouais même si je me suis un petit peu déshydraté à un moment, c'était pas bien grave et j'ai pu rebondir derrière.
Est-ce que vous aussi, vous avez été étonné par l'accueil des Norvégiens et Norvégiennes au départ, dans les premières, notamment dans la première longue côte à la sortie de Tolga, avec les petits drapeaux norvégiens? Est-ce que vous avez été étonné par cet accueil et cet enthousiasme matinal?
Bah, c'était drôle, on aurait dit une étape du Tour de France quand même, pas tous les à ce moment-là un peu.
Ouais, une étape du Tour en Norvège, c'est vrai que ça fait quand même, c'est quand même pas banal. Ça aurait été sympathique. Mais c'était plutôt chouette. Justement, en parlant de nourriture, la Sofiane, tu l'as un petit peu évoqué, et on voit des photos de toi en train de recharger en bonbons. Vous emmenez quoi, tous les trois, pour faire au moins la première demi-journée? Vous emmenez quoi, Christophe?
Du coup, pas les bonnes choses, je dirais, parce que... D'habitude. Au fur et à mesure des courses, au début, je partais genre avec une vingtaine de bars et je revenais toujours avec trop. Donc là, maintenant, je pars plus avec grand-chose par rapport à la course en me disant que de toute façon, quand je peux ravitailler, ben, je refais un full stock parce que je prendrai ce que j'ai envie à ce moment-là. Et là, de nouveau, je suis parti avec 10 bars et je reviens avec 5 bars après la course. Donc ça montre bien que... Après, je pense que les bars que je prends, il faut vraiment que je... Ben, c'est parce que j'ai du stock et que je prends encore celle-là, mais il faut que j'arrête avec celle-là. Mais du coup, ouais, il va falloir que je trouve déjà quelque chose de mieux que des bars pour moi, en tout cas. Justement, ça vient de parler des glucides. On en a parlé après la course tous les deux j'ai fini la course en bouffant des bananes et du yaourt dès que je pouvais. Parce que justement, ça passe super bien, que c'est hyper agréable pour la bouche à ce moment-là, mais en termes d'apport, c'est quand même pas fou. Mais donc, il faut que je trouve quelque chose qui me permette pas de dégoûter du sucre, qui a des apports quand même corrects, et surtout qui me permet de ne pas finir la course à juste avoir promené de la bouffe 1000 km en Norvège pour rien du tout, et qui me donne plus envie du tout. Donc, je sais que c'est un point que je vais devoir améliorer. Après, j'ai l'impression que c'est le cas à chaque course. Au final, vu que je puise pas toujours dans la bouffe, je puise dans le petit lard là qui traîne quelque part sur le corps, et je perds quand même souvent pas mal de poids pendant les courses, je pense, à cause de ça. Et là, ça marche. Je peux pas dire que j'ai pas eu l'impression vraiment pendant la course d'avoir eu vraiment une vraie hypo au moment où j'étais en manque de ressources. Juste, je savais que je devais manger et je prenais les trucs sans gros apport, mais au moins je mangeais et ça passait.
Clément, t'as emmené quoi, toi?
Alors moi, j'avais 200 grammes de viande séchée que j'avais acheté ici en Suisse et j'ai mis sous vide. Et parce que j'aime le goût et ce côté salé, j'avais un paquet de tuc parce que je suis souvent sensible de l'estomac et j'ai l'impression que le tuc c'est tellement sec que ça absorbe l'acidité. Alors peut-être c'est complètement stupide, mais mentalement ça me va bien. Et j'avais des sneakers. Et donc après, quand je me suis arrêté à droite à gauche, j'ai toujours acheté des sneakers. Et après, je varie en fonction. Et en boisson, j'étais parti avec deux bidons pleins de Morten. Je devais avoir deux ou trois sachets avec moi de Morten où, de temps en temps, je bois principalement de l'eau. Et des fois, quand je sens que je commence à être un peu plus faible, je mets un sachet de Morten. Et ça me va bien. Mais, je n'utilise aucun gel. Aucune barre d'effort parce que je trouve qu'à force je sature au niveau de l'estomac et après je bloque et je peux plus m'alimenter et c'est la descente aux enfers donc j'essaye de rester assez basique en fait. Voilà.
Ouais, et toi Sofiane, t'emmènes quoi?
C'est intéressant de voir que la nutrition c'est un problème pour tout le monde, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui partent comme ça en se disant « Ah ouais, trop bien, je pars faire 1000 bornes sur une ultra à bloc, j'ai trop faim tout le temps, j'ai trop envie de manger exactement du sucre. » Non, non, c'est compliqué, et c'est quelque chose qui est compliqué, c'est pas quelque chose qui devient simple avec le temps. Comme disait Chris, il y a des moments où voilà, ton corps accepte de manger une certaine chose, et puis les barres auxquelles t'étais adapté, et bien à un moment t'as plus envie de les bouffer, quoi. Que ce soit sur un moment ou que ce soit définitivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dégoûtés des Clif Bar par exemple. Moi j'ai toujours beaucoup aimé les sneakers, mais là ça fait quelques temps que j'en mange plus parce que je pense que j'en ai trop mangé. Et ouais, c'est vrai que l'alimentation, c'est pour ça que je dis qu'elle est plus facile à gérer sur des efforts, des ultra longs, parce que des ultra longs, t'as pas besoin d'alimenter ton corps toutes les heures pour qu'il puisse continuer à avancer. Et tu peux manger de manière plus espacée et du coup c'est plus simple, moi, je trouve, de s'alimenter. Moi j'étais parti avec, je m'étais fait des sandwichs parce que c'est vrai que j'ai du mal avec l'alimentation spécifique vélo. Et j'aime bien avoir des trucs comme de la vraie nourriture donc je m'étais fait des sandwichs avec du jambon, du fromage, j'en avais 5. J'étais parti aussi avec des bonbons, 500 grammes de bonbons, parce que c'est des glucides et les bonbons c'est un peu le truc quand j'ai rien envie de manger, je peux manger des bonbons, donc ça passe toujours. J'avais pris aussi des biscuits, des M&M's, comme je l'avais précisé, et pour le salé, comme je sais qu'il y a quand même besoin à un moment de manger du salé et que ça peut pas, on peut pas faire 48 heures à manger du sucre, j'avais pris des cacahuètes type Twinuts, là, cacahuètes enrobées, et je me suis dit, bah ça c'est bien, tu vois, l'enrobage ça te fait un peu des glucides, et puis les cacahuètes ça te fait de la matière grasse et des protéines, et en fait voilà quoi, j'ai pas mangé mes biscuits, j'ai pas mangé mes M&M's, j'ai pas mangé mes cacahuètes, j'ai mangé mes sandwichs, mais honnêtement j'ai mis 48 heures à manger les 5, et ouais, je pense que je suis parti avec trop, j'aurais probablement dû partir avec moins et m'arrêter plus souvent, et quand je m'arrête, voilà, au moins quand je m'arrête je sais ce dont j'ai envie, et moi je crois vachement au fait que ton corps, via les envies qui te dictent, il sait ce dont il a besoin, et au moins ouais, voilà, quand tu t'arrêtes quelque part et que tu as très envie de quelque chose, c'est parce que moi je suis convaincu que tu en as besoin. Et donc je pense que sur si tu pars avec beaucoup sur une course qui va durer 5 jours, 6 jours, c'est pas très grave parce que tu vas finir par tout manger quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que sur une course qui dure 2 jours, tu peux très bien revenir avec la majorité de la bouffe avec laquelle t'es parti. Alors, en soi, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est pas non plus optimal, quoi. Et ouais, après, quand je m'arrêtais dans les stations-service, je sentais que j'avais envie de manger chaud déjà. On s'est arrêté avec Clément dans un supermarché. Moi, je cherchais désespérément des trucs chauds. On a rien trouvé. Du coup, moi, j'ai filé à la station-service. J'ai réussi à trouver des hot-dogs. Et ouais, j'avais envie de chaud, j'avais envie de protéines, j'avais envie de sel. Sur les moments où je m'arrêtais, et j'ai avalé un. C'est assez marrant, c'est quand on fait de l'ultra, pour les gens qu'on n'ont jamais fait, mais quand t'es dans un tel état où t'as énormément besoin de calories et d'énergie, parfois tu manges des trucs dont tu sais qu'ils sont pas très bons, mais tu prends énormément de plaisir à les manger. Moi, j'ai mangé un cheeseburger de station-service en Norvège. Je sentais que tous les produits qui étaient dans le cheeseburger, c'était vraiment de l'ultra bas de gamme. Et que si j'avais bouffé ça à n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais trouvé ça dégueulasse. Mais là, j'étais hyper content. Je prenais énormément de plaisir à manger mon cheeseburger. Et c'était le truc dont j'avais besoin, quoi.
Mais c'est clair que l'alimentation, là, alors moi, j'ai pas trop de points de comparaison par rapport à vous trois, évidemment. Mais trouver la formule qui fonctionne pour gérer les premières heures de la course, et puis après réussir à gérer correctement la nécessité de s'arrêter, la nécessité de trouver ce dont on a besoin et ce qui va nous faire vraiment plaisir. De ma maigre expérience, c'est ce qui me pose le plus de problèmes, en tout cas. C'est pas le matériel ou gérer le matériel, c'est pas les jambes. C'est vraiment, moi, ce qui me pose souci depuis que je suis passé sur les trucs longs, c'est vraiment l'alimentation. Et Sofiane, toi, il t'a fallu combien de temps pour trouver ou au moins commencer à détricoter un petit peu ce dont tu as besoin ? Parce que tout à l'heure, tu l'as mentionné un petit peu, tu as parlé de la Transpyrénée 2021. Et déjà, tu m'avais dit, on avait fait un épisode à ce moment-là, tu m'avais dit que tu avais emmené beaucoup trop à manger et que ça t'avait pénalisé par rapport à Ulrich.
Non, je dirais pas que ça m'a pénalisé. C'est juste que j'ai emmené à manger. Et j'ai pris un coup de chaud, j'ai pris un vrai coup de chaud sur la Transpyrénée. Il faisait très chaud. Je pense que déjà, je me suis pas assez, non seulement pas assez alimenté, j'ai pas assez remplacé les sels minéraux que j'avais perdus avec la sueur. Je me suis pas assez hydraté. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris ce coup de chaud, j'ai passé quasiment toute la Transpyrénée sans manger. Et tu peux rouler sans manger, mais tu peux pas vraiment appuyer sur les pédales, quoi. Et c'est ce qui m'a vraiment pénalisé sur cette course-là. Après, est-ce que j'ai réussi à trouver des solutions? Comme je l'ai montré là sur la Bright Midnight, sur un effort de 1000 km, j'ai pas encore les réponses à ces questions, j'ai pas encore les solutions. Moi, je me suis jamais vraiment alimenté avec des gels. C'est un truc que peut-être si je refais des sprints, il faudra que je teste. Mais je sais que voilà, tu vois, il y a plein de gens qui vont dire moi les gels je ne peux plus, quoi. Ce que je conçois parfaitement, et ça se trouve je vais tenter et ça va pas fonctionner. Et après ouais, je sais comment faire sur des courses longues, mais voilà, l'alimentation sur une semaine et sur 48 heures c'est pas la même. Et les départs aussi sont pas les mêmes quand tu prends le départ du Tour Divide. Moi l'année dernière quand je prends le départ du Tour Divide, on n'était pas du tout sur les mêmes rythmes. En termes de pédalage, en termes de watts sur les 10 premières heures du Tour Divide que sur les 10 premières heures de la Bright Midnight. Et donc à partir du moment où t'es pas sur ces mêmes dépenses énergétiques, tu peux alimenter la machine d'une manière différente et t'as moins besoin, déjà on avait moins chaud, donc on avait moins besoin d'avoir par exemple des boissons qui sont adaptées à l'effort et qui permettent de remplacer tout ce que tu peux perdre par la sueur. Et puis on avait aussi vachement moins besoin d'alimenter en sucre rapide, et c'était beaucoup plus simple, quoi. Et puis tu sais aussi que le quart d'heure, 20 minutes que tu vas perdre sur une course qui fait 2 semaines, il coûte pas la même chose que sur le quart d'heure, 20 minutes que tu perds sur une course qui fait 48 heures.
Clément, toi, de ton expérience d'ex-coureur sur route, je rappelle que tu connais très bien Steven Le Yarrick, qui lui a été au port du professionnalisme, mais que toi, tu en as été encore plus proche, je crois. Comment tu adaptes justement ce passage de coureur sur route à maintenant ton expérience en ultra? Qu'est-ce que tu te vois modifier en termes d'intensité, sur l'alimentation? Qu'est-ce que tu imagines maintenant comme modification?
Bah, c'est surtout sur une course sur route, tu vas manger énormément de sucre rapide, le plus possible. Après, là, en ultra, tu peux pas, quoi. Tu peux pas boire que des boissons d'effort, que des gels, que des sucres, parce que tu te flingues l'estomac au bout d'un moment. Et après, c'est surtout quand tu viens d'un effort court, passer sur l'ultra, c'est savoir rouler doucement. Et c'est plus sur l'entraînement où moi je m'entraîne beaucoup tout doucement, très longtemps, mais tout doucement. Alors après, avec les spécialistes qui utilisent des watts et autres, c'est ce qu'ils appellent, je pense, la zone 2. Moi, je fais tout à la sensation du bonhomme, donc j'en sais rien. Et pendant ces entraînements-là, justement, je fais beaucoup d'entraînements où je passe le maximum de temps sans manger, quoi. Pour l'instant, ça me réussit bien, mais j'ai pas de chrono. Au bout de trois quarts d'heure, je m'en chie. C'est juste, je pousse à 3-4 heures. Sans manger, et après petit à petit le corps, je pense qu'il a switché, et puis voilà. Et après, c'est tester les produits à l'entraînement. Et moi, je sais que voilà, c'est des choses assez basiques, et la viande séchée, c'est le petit coup de la moraline, quand j'appelle. Et puis t'as plein de sel et autres, et c'est mon truc que j'aime bien, quoi. Ouais.
Ouais, c'est ton petit côté suisse d'adoption, parce qu'on a tous noté ton accent vaudois, ouais. Mais faut-il rappeler que tu es breton et que tu as renié ton accent breton?
C'est ça, mais je reste breton et fier de l'être, et j'ai le caractère du breton, mais je suis adopté ici maintenant.
Christophe, toi, comment tu adaptes? Outre le fait d'emmener des trucs que tu vas pas manger, comment tu vas adapter tes différents carburants aux intensités?
Ben nouveau des sprints, ouais. Les dernières courses que j'avais fait, c'était plus du plus long. Mais comme Safiane le disait, c'est quand même très différent, parce que une Sigro, une Atlas ou autre, tu peux prendre le temps de manger un vrai repas à un moment. C'est ce qui change quand même beaucoup, beaucoup par rapport à ici. C'est pas pour rien qu'on s'arrête pas au Burger King ou autre, c'est que les arrêts sont trop longs. Mais du coup, en fait, je sais que pour l'avoir fait de façon choisie, hein, mais dans plusieurs courses où mon corps est capable de rouler sans trop bouffer, je dis pas que de nouveau au niveau intensité, bah, peut-être que ça a un impact, mais Quand le corps sait plus, ben juste je roule et j'essaie de prendre quand vraiment à un moment je me dis là serait bien que tu manges, parce qu'à un moment tu vas le sentir. Mais de nouveau, il n'y a pas trop de réflexion sur il faut que je mange à ce moment-là ou ci ou ça. C'est juste qu'à un moment tu sens bien qu'il y a un petit manque d'énergie, et c'est un peu parfois sauf qui peut, tu prends ce qu'il y a. Justement, ben, comme les yaourts et les bananes, ben là je savais que ça marchait, mais je réfléchissais pas. J'arrivais dans une pompe à essence. Ils avaient du square là, ou je sais pas comment dire exactement, l'espèce de yaourt en forme en petits pots comme des compotes. Je voyais ça, j'étais hyper heureux, je partais avec 4, 5, 6 de ça. Et en fait, il y a un moment, est-ce que c'est lié à la déshydratation ou pas? Ça m'arrive quand même souvent en course, donc c'est pas que des déshydratations, je pense. C'est tout ce qui est vraiment solide, mâché, comment ça. À prendre de l'énergie, tu mâches et t'arrives pas vraiment à l'avaler, si t'as vraiment la bouche sèche, voilà. Et du coup, bah, tout ce qui est plus facile à avaler, tout ce qui est type compote, type yaourt, bah, c'est du pain béni. Et les gels, dans une certaine mesure, ce serait le cas aussi, mais pareil, je prends plus de gel en course. J'aime juste pas du tout le goût de base, et pareil, à un moment, c'est tellement sucré que je ne sais plus trop les avaler. Souvent, j'en prends un au cas où, et souvent, je reviens avec. Et les dernières courses où j'en ai vraiment pris, ils ont explosé dans les sacoches, donc généralement, ça me retient d'en prendre encore, vu le résultat que ça fait. Mais donc oui, c'est souvent plus sauf qui peut, et du coup, en fait, juste manger ce qui passe, c'est pas du tout grande réflexion. Et du coup, plutôt moins solide et plus genre liquide.
Et en plus, les gels, bah, non seulement tu peux les faire exploser dans tes sacoches, mais quand tu les as consommés, bah, évidemment, il est hors de question de les balancer sur la route, sur le bas-côté. Donc le réflexe, c'est de les mettre dans les poches ou dans les poches du maillot ou dans les poches cargo, mais ça continue à s'écouler un tout petit peu.
Ah, c'est
Donc
une
après
merde.
plusieurs heures, tu te retrouves avec les poches collantes, avec les poches totalement collées, c'est l'horreur absolue. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Parlons un tout petit peu du matériel. Sofiane, au départ, j'ai été entre guillemets un petit peu étonné de te voir sur le pneu avant avec, j'ai oublié le modèle de chez Renair, ce que tu utilises avec les gros pavés, un modèle quand même relativement cranté. Est-ce que tu as une petite réserve à ce niveau-là d'être parti avec quand même des pneus assez crantés, mais qui sont aussi réputés plutôt roulants quand même?
Je suis parti
Ou
avec
au contraire, est-ce que ça
les
t'a aidé?
Renaissance Manastash Ridge qui sont les nouveaux en 44 mm de largeur. C'était la première fois que je les roulais. J'aime quand même bien. Ça fait longtemps que je fais de l'ultra. Ça fait longtemps que je fais l'ultra off-road et j'ai commencé en faisant tout en rigide. J'aime quand même bien avoir un peu de confort. Donc c'est vrai que généralement j'ai des pneus qui sont souvent un petit peu plus larges que l'ensemble des participants sur les courses. Mais c'est aussi parce que je crois que j'ai en roulant en Renaissance, j'ai moins de préjugés sur les pneus larges. Et je pars du principe que c'est pas parce qu'un pneu est plus large qu'il roule moins vite. Et j'ai été vraiment bluffé par les Manastash. J'avais déjà pas mal roulé avec les Hurricane qui sont en 42 et j'ai trouvé que ces pneus-là étaient plus rapides, notamment sur l'asphalte et sur le gravel très 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 lisse. J'avais une sensation de vitesse qui était encore plus importante avec les 44 qu'avec les 42. J'étais après dans le troisième tiers de la course. Quand ça a commencé à secouer un peu plus et que le gravel était plus ce gravel champagne qu'on s'imagine en Scandinavie et qui existe, hein, mais qui n'est pas l'intégralité du gravel qu'on trouve en Scandinavie, j'étais content d'avoir quand même un peu plus que du 40 mm. Bon, il se trouve qu'à ce moment-là, on était un peu le nez dans le guidon et j'aurais pu même descendre un peu encore en pression parce que je crois que j'étais relativement haut en pression par rapport à ce que j'ai d'habitude. Mais globalement, j'ai été vraiment super content de mes pneus et si c'était à refaire, je prendrais, je pense, exactement le même train de pneus en 44. C'est vrai qu'avec Christophe, au début de la course, on se regardait et on était sur du gravel qui était tellement roulant qu'on se demandait si on n'aurait pas dû venir en 38 slick. Mais ouais, la suite de la course nous a quand même donné raison de venir avec des pneus un petit peu plus larges que ça et des crampons.
Oui, Christophe, toi de mémoire, tu avais des 40 raisonnablement crantés, un peu mais pas trop.
Ouais, c'était les Touaregs.
C'était ça?
Et c'était aussi bah, la
Ouais.
question, vraiment la question de base. Et d'ailleurs, je pense que c'était la question pour pas mal de participants. On nous a vendu ça comme quand même. Bah, pas en critique, hein, mais beaucoup d'asphalte et fort roulant. Donc la question du pneu très peu cranté était quand même vraiment là. Et c'est vrai que le 40 cranté Touareg, et d'ailleurs tous en tête, on avait des pneus relativement crantés. Personne n'était avec du type Panaracer Slick où on avait tous des vrais pneus de gravel, je vais dire. Mais du coup, le 40, j'ai pas l'habitude de rouler avec ça non plus. Après, le gravel que je fais en Belgique est pas vraiment champagne. Mais du coup, 40 de barres de pression, j'avoue, j'aime pas trop ce setup. Ça roule bien. Et il y avait de la route, donc ça roulait bien. Mais j'ai l'habitude de rouler à un bar 3, un bar 4 avec un serre avec des pneus de 45 en Belgique. Et niveau confort, c'est clair que il y a un monde de différence. Là, j'étais à deux barres avec un serre. Donc ça tabasse, après ça roule mieux du coup sur la route. Mais justement, la partie, le dernier tiers de course, je trouvais que ça tabassait mal, pas mal. Après, la course, c'est un ensemble, hein, c'est pas 5 km ou 10 km, mais je pense qu'au final, oui, les pneus 40, 42, 44, ça roule très bien sur ce parcours-là, mais il fallait pas aller en dessous en tout cas.
Et toi Clément, tu avais quoi sur ton Cannondale?
J'avais
Je me souviens plus.
les G1, les RS en 40.
Mais oui,
Ouais.
on en avait parlé en plus au départ, ça y est, je me souviens.
J'étais gonflé assez fort, mais j'ai crevé dès les premières descentes, donc j'avais très peu de pression dans la roue arrière. Après, à refaire, je partirais quand même un peu plus gros. Parce que la deuxième partie, là, quand j'étais avec Sofiane dans les descentes un peu plus techniques, j'ai vu que je tapais dans tous les sens. Après, on est arrivé à des parties au début de la zone où il y avait 200 km sans rien. Là, il y avait pas mal de racines et je trouvais que je me faisais secouer un peu dans tous les sens. Donc, à refaire, je partirais un pneu, le même style de pneu avec assez roulant, des crampons sur les côtés, mais un peu plus large pour gagner en confort, quoi. Mais autrement, pour le début de course, ça allait très bien. Mais dans l'ensemble, ouais, un peu plus gros et ça aurait été parfait, quoi. Ouais.
Il y a aussi une autre composante, c'est
Alors tout à l'heure, on
que
en a parlé, hein. Oui.
ouais, nous, au niveau du
Oui, t'es
grip,
sûr.
on a eu la course on a eu dans le sec tout le temps. Donc, je sais pas le terrain en mouillé, si avec des pneus un peu plus liquides ou autres, si ça aurait été la même. Mais en tout cas, nous, tout était sec tout le temps. Donc, je pense que ça joue quand même sur la pneumatique aussi.
Comment on gère, dans votre cas, lorsque l'on va très très loin, alors peut-être certainement aussi pour les autres, finalement, je m'en rends moins compte, comment on gère l'après-course? Toi, Sofiane, comment tu gères ce non-sommeil? Clément, où tu es allé quand même pas loin du burn-out? Christophe, toi, c'est un peu différent parce que tu as fait la grasse mat à la fin. Comment on gère immédiatement l'après-course et les jours suivants? Que se passe-t-il? Pour vous, Christophe.
Du coup, ouais, j'ai pas fini mort défoncé de fatigue. Je parle de fatigue sommeil, du pas de zombie. Mais du coup, il y a quand même qu'une chose, c'est quand tu finis, t'as quand même envie de dormir. Après, il y avait quand même un peu de bière à l'arrivée, donc il y avait quand même de quoi faire. Mais les jours qui ont suivi, c'est juste tu glandes que dalle, tu fais que bouffer. Après, c'est la même pour tout le monde. Et t'es pas en demande de faire beaucoup de choses. De toute façon, on avait parlé avec Sofiane d'aller rouler. Il a fallu quand même quelques jours pour qu'on aille rouler. Et la fatigue physique pour celle-ci, ça allait relativement bien. Sofiane a été roulé quoi, 2 3 jours après,
Ouais, deux,
je
trois jours, je
pense.
crois.
Et franchement, ça allait. On était bien sur le vélo là, parce que justement, finalement, c'est que 2 jours d'effort. Après, bon, j'avais pas mal d'expérience, mais après une Silk Road, c'était hors de question que je renfourche mon vélo pour aller faire un petit tour à vélo dans le coin. Et ouais, voilà, c'est juste rien glander, manger, aller au supermarché 4 5 fois sur la journée. Et voilà, et accueillir un peu ceux qui arrivent, parce que c'est toujours chouette de parler avec les autres et de voir un peu leur expérience, surtout qu'on a eu les 5 6 premiers, on a une course complètement différente du reste du pack, en fait. Avec justement cette histoire de météo, et donc c'était assez drôle à entendre parfois, et tu revois tous ceux que tu as vus au départ avec une autre tête qu'au départ.
Et combien de temps il te faut ou combien de temps estimes-tu avant d'être capable de te réentraîner correctement ou de vraiment pouvoir te projeter, dans ton cas, vers les Pyrénées bientôt, de vraiment pouvoir y penser?
Je sais. Généralement, mes courses sont souvent espacées d'un gros mois. Bon, ici, c'est un peu particulier, et d'ailleurs, je le conseille pas vraiment. C'est la deuxième fois que je fais l'erreur. C'est que j'ai prévu des vacances en Norvège après, un bikepacking après la course. Le mieux, c'est clairement de faire ses vacances avant la course, parce qu'après la course, t'as envie de... En fait, limite, t'es content de rentrer chez toi. Donc là, en fait, fin de semaine, je suis reparti en bikepacking après la course et j'ai renchaîné un peu moins de 1000 km en bikepacking. Donc finalement, le corps, il a de nouveau retravaillé. Évidemment, c'est pas la même intensité que la course, mais niveau fatigue, ça allait. Après, là, maintenant, du coup, là, en Belgique, je roule pas vraiment. La météo joue beaucoup parce que je suis pas du tout dégoûté du vélo, là. Au contraire, j'ai bien envie de rouler. J'ai été rouler deux fois cette semaine, des tout petits trucs, hein, 1 heure et 1 heure et demie. Et là, je sens qu'il y a un peu de fatigue. Les jambes répondent, mais je sens que les jambes sont un peu lourdes. Donc, je pense que, ouais, il va falloir, déjà que je dorme un peu plus, que je laisse un peu. C'est pas grave si je roule pas trop maintenant, mais que ça va revenir de toute façon. Et dès qu'il y aura du soleil ou autre, je pense que l'envie d'être dehors sur le vélo sera à nouveau là.
De toute façon, t'as pas besoin de t'entraîner à vélo, tu vas faire fervor, t'as besoin de t'entraîner à la randonnée.
C'est pas faux, ouais. Donc, prévoir un bon setup.
Ouais, voilà, tu prends ton vélo, mais au lieu de te mettre dessus, tu le straps, et puis tu vas grimper avec ton vélo sur le dos, là.
En tout cas, c'est vrai qu'il va falloir que je travaille fort.
Et toi, Clément, ça s'est passé comment l'après-course?
Bah, tu t'écoutes, quoi, ou tu... Non, mais tu dors, tu manges, tu vois les copains qui arrivent, tu discutes, et voilà, après, on a fait un peu la fête, Christophe est en témoin.
Je me demandais si tu allais en parler, ouais, il avait de l'énergie, ouais.
Voilà, et après, retour ici... Ouais, il y a de la fatigue. Après, moi, je m'écoute concrètement. Je me prends pas trop la tête. Si j'ai envie de rouler, je roule. Si j'ai pas envie, je roule pas. Et après, il y a comme un ultra. Je sais pas si ça fait ça à vous, mais il y a comme un petit passage à vide derrière où tu sens un peu moins d'envie ou autre. Mais après, avec l'expérience, tu sais que c'est normal. Puis l'envie revient. Après, là. J'ai pas de blessure, donc ça c'est bien. Je me laisse un peu le temps. Et là, ce week-end, je vais partir faire du gravel vers le Galibier, tout ça. Donc petit à petit, je vais remonter sur le vélo et vraiment repartir à l'entraînement. Et après, voir en fonction des autres. Si je fais une autre course, là, voir. Après, je vais essayer de replanifier. Enfin. C'est un grand mot, mais essayer de donner un peu un guide dans l'entraînement pour essayer d'arriver prêt sur un prochain événement. Quoi.
Ouais. Ouais, tout à l'heure, avant de lancer l'épisode, tu nous parlais d'une course au Portugal, c'est ça ?
Ouais, en fait, c'est assez fou, mais le lendemain de l'arrivée de Brian Midnight, j'étais dans le lit là, et j'avais Philippe Béchet là, de Lausanne Gravel qui était dans la chambre avec moi et je lui demandais qu'est-ce qu'il y a comme autre course, quoi. Je suis inscrit nulle part. Et je regardais sur bikepacking.com et j'ai vu The Goat là au Portugal et moi je fonctionne vraiment un peu à l'envie, au coup de cœur et depuis ça je regarde quasiment tous les jours un peu le site et tout ça, donc je pense que je vais y aller. C'est une course de 800 km, je crois qu'il y a 16 000 mètres de dénivelé donc ça me titille un peu. Je pas inscrit là, je crois que c'est jusqu'au 15 août les inscriptions. Donc on va voir, mais il y a de grandes chances que j'y aille. Quoi. Ouais.
J'ai l'impression que c'est un format qui va vraiment se populariser de plus en plus. 800, entre 700 et 800 pour 16 000, c'est un compromis, un ratio qui va vraiment exploser, qui est déjà de plus en plus populaire, mais qui va exploser encore plus. Mais ça pourrait faire l'objet d'une question suivante. Sofiane, toi, tu étais vraiment complètement défoncé au moment où on a échangé par message?
Alors moi je suis arrivé, il était environ 13h, on m'a proposé à manger, j'ai évidemment dit oui. J'ai mangé et je me suis endormi sur un fauteuil dans le restaurant, comme les photos de Niels en témoignent. Et j'étais bien chaud pour attendre Clément après, parce que comment c'était tiré la bourre pendant quasiment l'intégralité de la course, ça m'aurait fait plaisir de le voir au finish. Mais j'étais vraiment explosé. Et j'étais, il y a quelqu'un qui, moi j'avais un logement sur les hauteurs de Tolga, pas très loin, à 6 km, mais il y avait 250 mètres de D+, donc j'allais pas aller faire un vélo. Il y a quelqu'un qui m'a gentiment proposé de me déposer, et je me suis dit bon bah écoute, là j'ai besoin d'être dans un lit, et donc immédiatement après la course, une heure après avoir fini, on m'a déposé dans ma petite cabane, et puis j'ai dormi, je sais pas, peut-être 4 heures, un truc comme ça, 5 heures, et puis après voilà, pareil le soir, j'ai remangé, je suis allé retourner me coucher. Un mille comme ça, c'est pas hyper compliqué de s'en remettre, hein. La fatigue elle dure pas énormément. Au bout de, moi j'estime qu'au bout d'une semaine, au niveau des cycles de sommeil, on s'est un peu recalé. Il n'y a pas besoin non plus de faire des grosses nuits pour digérer un effort comme ça. Après au niveau des jambes c'est pareil, comme dit Chris, on est allé rouler 3 jours après. Moi j'ai aussi fait la route de Tolga, pas exactement jusqu'à Oslo, mais j'ai quand même roulé 2 jours à 120 bandes par jour, sous la pluie, sympa. Bien, c'est la Norvège. Mais ouais, j'ai quand même réussi à rouler tranquillement après la course, à reprendre l'entraînement à Paris relativement tôt, sans faire de bornes, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de bornes, mais en faisant plus de l'intensité, parce que l'avantage d'une course comme ça, c'est que ça te met quand même bien en condition une fois que t'as effacé la fatigue, et c'est bien d'entretenir cette condition, surtout que je vais partir sur la Silk très bientôt, donc j'ai envie d'arriver en forme sur la Silk. Après, comme le disait Chris, il y a c'est un peu bizarre, hein, un après course comme ça, parce que moi, ouais, j'avais un peu de temps avant de rentrer à Paris. On avait parlé d'éventuellement aller rouler, et puis t'es là et tu viens de finir la course, et puis t'as pas spécialement envie de rouler en fait. Si t'as envie de rouler, t'as envie de rouler une heure ou deux, mais en vrai, t'as pas envie. C'est assez bizarre. Moi, j'ai pas l'habitude de rester longtemps après les courses. Là, je suis quand même resté 5-6 jours. Et je sais pas si c'est vraiment une bonne chose en soi. J'ai l'impression qu'après une course, une fois que t'as vu les copains pendant un ou deux jours, que t'as bien mangé, bien dormi, bah finalement l'endroit où t'es le mieux, c'est encore chez toi, parce que t'as besoin de continuer à faire ta récup. Et c'est quand même mieux d'être chez soi plutôt que d'être ailleurs. Et c'est assez bizarre en fait d'être ailleurs et de pas avoir envie de rouler. Enfin. Moi, quand je suis en voyage, j'ai toujours envie de, le matin, de prendre le vélo pour aller voir ce qui se passe 100 ou 150 km plus loin. Et puis là, t'es dans un endroit où t'es jamais allé, mais t'as aucune envie d'aller voir ce qui se passe plus loin. Et en même temps, t'es là. Et puis au bout de 2 jours où t'as beaucoup dormi, beaucoup mangé, bah, que t'as vu les copains et tout, bon, bah, il y a quand même des moments où ça devient un peu long, tu te fais un peu chier. Et c'est pas toujours facile à gérer les après-courses. T'as pas toujours, tu vois, moi j'étais très content de ce que j'avais fait, j'étais très content d'avoir gagné, mais il y a quand même des jours où voilà, j'étais là un peu, je veux pas dire que j'avais pas le moral, mais je trouvais le temps long, et je me dis que ouais, en soi, tu viens pour faire un truc, et comme dit Chris, c'est probablement mieux si tu dois faire du touring, de faire l'intégralité de ton touring avant, et de pas forcément te prévoir une semaine après la course en te disant que tu vas continuer à voyager, parce que je pense que c'est pas réaliste.
Tu as vu quoi, Chris, après la course? Tu es allé vers quel coin de la Norvège? Parce que là, on peut quand même dire qu'on a vu une belle tranche de Norvège. En tout cas, on a vu certains des points touristiques. Que ce soit le fjord de Geiranger ou les chutes de Andalnes, on a vu quand même quelques-uns des trucs les plus marquants de la Norvège. Tu es allé voir quoi, toi, en plus?
Bah, du coup, je suis parti plus au nord, vers Trondheim, et j'ai fait la côte. Il y a Atlantic Road qui est assez connu. Puis je suis revenu vers le sud, je suis rentré dans les fjords, vers les montagnes, et je suis passé sur quelques passages où on est passé avec la course. C'était bien. Après, je vais pas dire que Il y a des moments où j'étais déçu, clairement. Après, je pense que la côte, c'est pas vraiment pour moi. Et puis, il n'y a rien à faire. J'ai eu du mal à me motiver à partir en bikepacking pour les raisons qu'on a évoquées. Et la météo a quand même beaucoup affecté tout ça aussi. Et juste, ouais, je pense qu'on a vu des super beaux trucs avec la course, mais genre vraiment très beaux. Que ce que j'ai vu était pas moche, mais que j'avais pas un besoin de voir ça en plus. Je suis passé sur l'Eurovélo aussi, pas mal, qui est plutôt d'un inintérêt complet, je trouve, par rapport à ce qu'on a vu. Donc je conseillerais pas spécialement l'Eurovélo, sauf si on est en vélo de trekking et qu'on veut faire facile, mais en tout cas en bikepacking type comme on fait, on va dire, c'est pas hyper intéressant. Le seul avantage de ce type de route, c'est que bah, du coup il y a du bikepacker et que ça m'a j'ai fait quelques rencontres assez chouettes sur l'Eurovélo. Mais voilà, du coup Trondheim, la côte, rentrer dans les terres, et en fait dès que tu rentres dans les fjords, de nouveau dans les montagnes, tu dis ah ouais, c'est là que c'est chouette. Et ce qui aurait été cool à refaire, je pense, c'est descendre plus au sud du coup. Je pense que c'est là que ça devient plus intéressant. Plus au sud de la trace de la course, vers le Jotunheim, ou encore un peu plus au sud, il y a des sommets à plus de 2000 mètres. Je pense que ça aurait été pas mal. Prochaine fois.
Pour conclure, on va parler des moustiques. Clément,
Oh.
Time.
Bon, j'en ai pas eu. On n'en a pas eu. J'avais pas d'anti-moustique avec moi et bah, vu qu'on s'est, je me suis juste arrêté un moment là, au début de la deuxième nuit, à mettre mes jambières et autres, et là j'ai été piqué. Mais de manière générale, on n'a pas été embêté le fait de pédaler tout le temps. Donc sur ça, j'ai rien à dire, quoi. Ouais.
Bon, ben voilà, Yac. Donc là, pareil, ça confirme un des adages. Putain, il y a une averse dehors. Ça confirme l'adage que la vitesse résout tous les problèmes, que ce soit les ravitaillements ou les moustiques.
Alors,
Et voilà,
Richard, je vais me permettre de te corriger, parce que si Clément n'a pas eu de problème avec les moustiques, moi j'en ai quand même eu. Comme quoi, à 1 heure de différence, c'est le bon moment ou le mauvais moment. Mais moi, s'il y a un moment où je longeais un lac le matin, juste, je pense, à 100 ou 120 bornes du finish,
Ah oui.
et à un moment, j'ai regardé mes jambes, j'étais en train de pédaler. Alors, je n'allais pas très vite parce que c'était une côte à 12%, mais j'ai regardé mes jambes et j'avais 12 moustiques par jambe. Donc j'essayais de pédaler en tapant sur mes cuisses pour tuer les moustiques. Mais moi j'ai fini la course avec ouais une bonne vingtaine de piqûres de moustiques sur chaque jambe et ils m'ont vraiment genre assailli sur deux trois côtes comme ça vers la fin du parcours. Ils m'ont vraiment assailli mais absolument sans aucune considération pour le fait que j'étais en train de rouler.
Ça, c'est le principal défaut des moustiques, hein, c'est qu'ils ont aucune. Ils sont, ouais, on peut le dire, les moustiques sont égoïstes, hein, ils ont aucune considération pour ce que l'on fait et aucun respect
Aucune empathie.
pour ce que l'on fait. Ah oui, non, mais ça, c'est le principal défaut des moustiques. Christophe, un problème de relation avec les moustiques?
En bikepacking plus, bon, pour un cours, ça allait. Et il y a le point Midgis aussi, mais de nouveau, ça
Ouais.
allait.
Mais écoutez, messieurs, on va laisser Clément, parce qu'il est 13h59, on va laisser Clément aller ouvrir la boutique.
Ouais.
On va laisser Clément se remettre au travail et aller faire son boulot de mécano-vélo. C'est ça,
Ah ouais, c'est
Clément?
ça, ouais. Ouais. Donc là, ça repart pour l'après-midi.
Ah, tu veux dire que tous les
Christophe va
vélos qu'on
aller
voit derrière
étudier les
toi, ils sont pas
tremblements
à
de terre.
toi?
Comment?
Et tu veux dire que tous les vélos qu'on voit derrière
Tous les
toi, ils sont
vélos
pas à
qu'on
toi,
voit.
en fait?
Non, 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 je suis une arnaque, quoi. Ouais.
Bien, eh bien messieurs, eh bien, je vous remercie vraiment du temps passé avant la course, le peu qu'on s'est vu pendant, et puis surtout de ce temps partagé. Et comme à chaque fois, de l'expérience partagée, c'est toujours super enrichissant. Sofiane, bonne chance pour la Silk Road. En route pour le troisième.
Bon amusement.
En route pour la troisième victoire. éclate-toi bien à l'hôtel de je ne sais plus Niral ou je ne sais plus le nom de la ville que tu as
Narine.
Invité dans ta vidéo.
Narine. Les...
Narine, voilà.
Narine. Voilà, moyen mnémotechnique.
Narine, j'ai beaucoup apprécié ta vidéo que j'ai regardée ce matin. Je l'ai trouvée très très bien, très
hôtel.
Didactique.
J'ai aussi
que bravo. Ouais,
tu étais aussi à Narine. Et moi, j'ai même réussi à,
tiens, là, je vous ai
à rentrer
perdu.
Mon vélo dans la chambre. Contre toute attente.
C'est étonnant parce que je vous ai perdu tous les trois d'un coup.
Ah ouais, ils veulent pas du tout, mais je les ai chantés. J'aurais dit non, c'est bon, je laisse dehors dans le couloir. Et ils sont barrés. Ah, Richard est de nouveau avec nous. Ça va, Richard? On t'avait perdu.
Ouais, je vous avais perdu le temps d'un instant. C'est pas la peine d'avoir la fibre. Hein.
Non, ça sert à rien. Ouais, Narine.
Bon,
Christophe
voilà, tout...
aussi, il recommande.
Voilà. Eh bien, au plaisir de faire un débrief avec toi au retour de la Silk Road. Merci, messieurs. Et à très bientôt. Je coupe l'enregistrement et vous ne coupez pas votre ordinateur le temps d'un instant. D'accord ?
Ok.
Restez en ligne le temps d'un instant.
Ok, on reste en ligne.